Bonjour et bienvenue dans cette émission Portrait migratoire, une émission réalisée dans le cadre de notre projet Les ondes du vivre ensemble, un projet cofinancé par le Fonds européen d'intégration. Anka, Bianca, Isabelle, toutes les trois ont quelque chose à voir avec le mot étranger, mais aussi avec ces autres mots, intégration, culture, ailleurs. Elles se sont livrées à nos micros, on les écoute.
Je suis Daniela Midi, j'ai 31 ans et je suis mexicaine.
D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez me décrire votre situation aujourd'hui? Qu'est-ce que vous faites dans la vie, ici à Bordeaux?
Je suis à Bordeaux depuis un an et je travaille à l'ECE et je fais partie du service de développement, admission et concours.
D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer, si on revient un petit peu plus tôt dans votre enfance, donc vous êtes née au Mexique et jusqu'à quand vous êtes restée là-bas?
Alors, je suis née au Mexique, je suis restée jusqu'à ce que j'avais 25 ans. Donc, j'ai fait vraiment toute ma scolarité, toute ma famille vit là-bas. Et je suis venue en France pour faire un double diplôme d'études supérieures à Dijon, voilà, pour apprendre le français.
Alors, les études que vous avez faites là-bas au Mexique, qu'est-ce que c'était?
C'était une école de commerce avec une spécialisation en négociation commerciale internationale.
Donc déjà petite, vous rêviez de travailler dans le commerce ou c'était complètement autre chose?
Ah oui, non, j'ai toujours aimé tout ce qui était international, voyager, les autres cultures. Et après, plus tard, j'ai décidé de faire le commerce. Voilà, et me spécialiser là-dessus.
Et alors, donc la France, vous êtes venue en France à Dijon pour un diplôme, donc. Mais pourquoi la France? Il y avait peut-être d'autres pays qui pouvaient vous attirer. Pourquoi est-ce que vous avez choisi la France?
Moi, je pense que la France m'a toujours fait un peu rêver. C'était déjà petite, Chanel, le parfum, voilà. Déjà pour nous, les Mexicains, la France représente vraiment cette notion de beauté, luxe, mode. Donc, il y avait toujours ça qui m'a fait rêver. Et puis, il y avait la langue française en Mexique. La plupart de mes collègues, camarades plutôt, partaient aux États-Unis où ils parlent anglais. Moi, c'était déjà le cas. Mais je voulais avoir un plus, donc une autre langue. Et le français m'a toujours attirée. Je trouvais ça élégant. Voilà, j'avais vraiment cette attirance.
D'accord. Alors, quand vous êtes arrivée à Dijon, comment ça se passe? Expliquez-nous votre arrivée en France. Parce que vous ne parliez pas français quand vous êtes arrivée ou un petit peu?
Effectivement, je ne parlais pas du tout. Donc, c'était une opportunité, Dijon, parce que mon école au Mexique avait un accord avec l'école de commerce de Dijon. Et en fait, les cours étaient en anglais et c'était en France. Donc, pour moi, c'était l'opportunité de ne pas rater mes études et tout en apprenant le français. Donc, je suis arrivée et c'était difficile parce que je ne parlais pas du tout la langue. C'était en janvier, je m'en souviens très bien. C'était le passage à l'euro. Et déjà aussi, il y avait un changement, je sentais, dans la société qui se créait. Et voilà, en plus, il y avait beaucoup de Mexicains. Donc, difficile aussi d'aller vers les Français quand on est étudiant et qu'on ne parle pas la langue. Et puis, c'était l'hiver. Donc, ça faisait aussi beaucoup de choses. Mais ça s'est quand même hyper bien passé puisqu'on était très bien encadrés. Il y avait l'école qui gérait tout, les visas, tout ce qui était administratif. Donc, c'était quand même hyper bien passé. Voilà, preuve, je suis toujours là.
Et alors, justement, la langue, là, vous parliez des difficultés de la langue. Comment vous avez fait pour apprendre petit à petit? C'est seulement en parlant avec les autres, avec les Français? Est-ce que c'était en regardant la télévision beaucoup, en prenant des cours?
C'était un mix. C'était déjà, j'ai rencontré mon mari maintenant à l'époque, donc bon, c'était un peu mon prof particulier. Et quand on est étudiant, voilà, c'est vrai qu'on sort, on va vers les autres. Donc voilà, j'étais en contact quand même aussi avec des Français, la télé, et j'ai pris aussi des cours en parallèle. Voilà, donc c'était un peu un tout. Et oui, au deuxième semestre, j'ai décidé de vivre dans une famille d'accueil française pour vraiment entendre le français tout le temps. Parce que c'était vraiment ça qui a fait, je pense, que la différence aussi par rapport à mes camarades qui sont rentrés au Mexique, qui ne parlaient pas du tout français.
D'accord. Alors, la culture française maintenant, parce que quand vous êtes arrivée, la culture, vous pouviez rêver un peu la culture française à travers Chanel et tout ça. Mais quand vous êtes arrivée, qu'est-ce qui vous a marqué par rapport à la culture française?
Au début, voilà, c'est déjà me rendre compte que il n'y a pas que la mode, il n'y a pas que cette, c'est, y a l'image et puis il y a la réalité. J'ai trouvé que c'était un pays où il y avait quand même une uniformité, il y avait beaucoup, les étudiants étaient très bien encadrés. Et la culture française, en fait, je peux dire que je continue à la découvrir. C'est-à-dire qu'au début, juste arrivée, et puis c'était un peu le choc, la découverte. Et puis petit à petit, j'ai appris que cette année-là, il y avait une manifestation parce qu'il y avait Le Pen qui avait passé. Voilà, c'est des choses comme ça. Et en demandant, en s'interrogeant, on découvre un peu. Je peux dire que je sais pas, j'ai la culture française est tellement riche et il y a tellement de matices aussi que voilà, c'est comme un livre, voilà. Tous les jours, je peux dire, je tourne une page et j'ai à apprendre un peu plus.
Justement, sur ces questions de politique, nos auditeurs savent sûrement pas comment ce qui se passe au Mexique ou quoi que ce soit, mais ça, c'est des choses qui vous ont marqué, le fonctionnement politique du pays ou le fonctionnement, par exemple, des écoles ou les choses comme ça. Il y a des différences, c'est des choses qui vous ont marqué ou.
Oui, bon, bien sûr. Il y a déjà, enfin, voilà, les écoles, c'est pas comme chez nous parce que bon, le Mexique c'est un pays qui n'a pas le même développement économique. Donc les gens qui font des études supérieures, c'est vraiment une minorité. En France, c'est pas le cas. Mais il y a quand même, j'ai trouvé, il y a les classements, il y a beaucoup d'administratives. Tu fais telle école, tu appartiens à quel groupe, toi, t'as fait une prépa ou pas. Nous, on venait juste de l'étranger, donc on faisait pas partie de ça. Mais on sentait qu'il y avait quand même voilà, une différence entre quelqu'un qui vient de la fac, quelqu'un qui vient de tel lycée, voilà. On le sentait tout de suite. Et après, par rapport à l'administration et la politique, enfin, je mélange pas tout, mais l'administration en soi, je trouvais ça compliqué, même pour une Mexicaine où aussi il y a un peu d'administratif à faire. Et la politique, oui, c'est vraiment, je trouve que c'est dans les gènes des Français, c'est vraiment quelque chose qui sont en soi. Hein. Ils adorent ça. Je pense que voilà, déjà dans l'histoire, mais c'est vraiment quelque chose qui fait partie vraiment de la culture.
Alors après Dijon, donc qu'est-ce qui se passe? Vous terminez l'école, vous avez eu le diplôme?
Oui, j'ai eu le diplôme, j'ai terminé l'école, je suis rentrée au Mexique pour finir, parce que c'était un double diplôme. Et après, j'ai décidé de revenir à Paris pour faire un master, donc cette fois-ci à la Sorbonne. Donc j'ai pu découvrir un autre système, donc voilà, la fac. Et j'étais agréablement surprise par le niveau, les intervenants et surtout le coût. Enfin, j'étais hyper. Enfin, voilà, au Mexique, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ce niveau à ces prix. Enfin, c'est pas possible. Et voilà, et après, j'ai pu travailler grâce à mon stage. Bon, après, je me suis mariée. Et je peux dire que c'est ça aussi qui a fait que j'ai pu travailler plus facilement. Parce que en étant étudiant, j'ai voulu travailler. Mais je trouvais que c'était compliqué par rapport à mon statut. Voilà, j'avais pas le permis, donc voilà, le fait d'avoir été mariée, enfin de m'avoir mariée m'a permis de pouvoir être voilà, citoyenne et être embauchée dans des conditions simples, entre guillemets, enfin, sans que l'entreprise fasse la démarche. Voilà, donc ça a été ça simplifie les choses pour moi.
Et justement, c'est votre premier emploi là, quand vous disiez j'ai été embauchée, c'est ici?
Alors non, c'était à Paris toujours, parce que je suis vécue avec mon mari 6 ans, et après ça fait un an qu'on est sur Bordeaux.
Et là, par exemple, pareil, Paris, découverte, parce que Dijon-Paris, ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que ça vous a évoqué? Ça a dû vous apporter une autre vision aussi de la France, la capitale?
Ah oui, déjà Paris, on a tendance à penser que Paris c'est la France, Paris égale France, donc moi. J'ai eu la chance parce que je n'avais pas découvert Paris avant Dijon. Donc je savais qu'il n'y avait pas que Paris. Après, j'adorais Paris. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de choses. C'est magique dans le sens où c'est vraiment le cœur économique. Et aussi, il y a les tendances qui se marquent. C'est Paris, c'est quand même un passage obligé. Et puis, c'est une ville qui est hyper belle. C'est vraiment une ville musée, moi je peux dire. Mais Mais aussi, c'est tout un peu centralisé. Ça aussi, je me rends compte par rapport à... Maintenant que je suis à Bordeaux, je me rends compte qu'il y a vraiment Paris, c'est là où ça se passe la plupart des choses. C'est peut-être pas forcément évident. Et par rapport à la mentalité, bon, c'est vrai que c'est particulier. On s'y fait. Mais moi, je peux dire que j'ai vraiment adoré. J'ai eu la chance aussi d'habiter au cœur du Paris et profiter de tous les avantages que la capitale peut offrir. Et puis aussi, le Paris, quand on travaille et qu'on a oui, les revenus qui peuvent nous permettre de profiter des choses qui peuvent se faire, c'est super agréable. Hein.
D'accord. Alors, on va parler aussi de votre arrivée à Bordeaux. Alors, comment ça s'est passé? Donc, vous décidez avec votre mari finalement de venir ici. Ça fait un an et là, pareil, encore une autre vision de la France. Comment vous avez trouvé cette ville?
En fait, mon mari, il est bordelais à la base, donc c'est pour ça qu'on a décidé de revenir sur Bordeaux. Enfin, de revenir, non, on n'a jamais vécu, moi en tout cas. Mais il a eu l'opportunité professionnelle. On a deux enfants, donc aussi le fait d'élever deux enfants à Paris, c'était compliqué. Donc là, Bordeaux, c'est vraiment une ville agréable qui nous permet vraiment d'avoir un cadre pour pouvoir s'occuper des enfants et nous profiter d'eux d'une façon plus pratique, agréable.
D'accord. Et alors, vous parliez tout à l'heure du fait le fait de vous marier qui vous offre un statut de citoyenne. Donc là, vous vous sentez française, quoi, vraiment aujourd'hui ou pas?
Non, non, parce que je suis pas née en France et je suis arrivée quand même quand j'avais 20 ans pour un échange. Enfin, puis ma famille n'est pas ici. Il y a vraiment que mon mari et sa famille qui est là. Je veux dire des proches, mais autrement, non, je peux pas me sentir française. Et je pense que je ne me sentirai jamais. J'ai pas l'accent. J'ai appris le français un peu tard, entre guillemets. Et non, après, en revanche, je me sens très bien intégrée, j'ai fait très bien ma vie, j'ai travaillé, j'ai mes enfants, voilà. Mais non, je pense que c'est. Je suis pas née ici et j'ai pas encore non plus tout le réflexe d'une Française. Et puis voilà.
Bah, vous avez ouais, votre culture à vous aussi que vous apportez ici. Et justement, vous avez employé le mot intégré, que vous vous sentiez intégré ici. Et ça passe par quoi pour vous l'intégration qu'est-ce que ça voudrait dire être intégré en fait?
Pour moi, ça veut dire pouvoir vivre sa vie d'une façon comme les autres. C'est-à-dire que on arrive à se mélanger, entre guillemets. Donc pour moi, intégration, ça veut dire voilà, arriver à quand même à faire partie d'eux. Et ça passe, moi, je pense que d'abord par le travail. Le fait de pouvoir travailler et avoir les mêmes opportunités que les autres citoyens.
Et vous n'êtes jamais senti discriminé parce que vous viendriez du Mexique ou parce que vous avez eu des expériences comme ça de discrimination ou pas du tout?
Non, non, je pense que non, parce que j'ai quand même fait aussi des études qui m'ont apporté quelque chose qui est une valeur ajoutée. Donc le fait d'être étrangère, ça a été toujours un plus. Donc ça n'a jamais été vu comme un problème. Voilà. Donc non, au contraire, ça a toujours été un plus.
Et alors, vos enfants, ils vont rester ici, ils vont retourner au Mexique. Comment vous le voyez-vous? Quelle projection pour le futur, là, maintenant?
Je sais pas. Moi, j'aimerais bien qu'ils soient biculturels, qu'ils se sentent aussi français que mexicains, parce que c'est le cas. Après. Pour l'instant, on est en France, donc évidemment, ils sont quand même ils parlent beaucoup plus français qu'espagnol. Mais oui, à terme, moi, je voudrais qu'ils passent toutes les vacances là-bas, voilà. Et je sais pas, avec mon mari, j'aimerais bien trouver aussi un moyen d'être entre les deux. C'est peut-être pas évident, mais pourquoi pas dans le futur aussi vivre là-bas. Voilà.
Il y a autre chose que vous voudriez dire qu'on n'a pas dit ou ça va?
Ah oui, moi je pense que la France, moi j'aime beaucoup la France, mais c'est aussi à nous les étrangers de s'adapter. C'est-à-dire que des fois j'entends, ah oui c'est inadmissible, les logements, la situation précaire, oui, mais nous aussi les étrangers, c'est nous qui arrivons, c'est à nous de nous adapter. Donc, si on fait les efforts, les Français vont reconnaître l'effort et puis on arrive à s'intégrer. Mais il faut faire l'effort aussi.
Et une petite question simplement par rapport au même phénomène, mais au Mexique. Peut-être que vous pouvez nous apporter un éclairage qu'on ne connaît pas. Comment ça se passe, l'intégration des étrangers au Mexique? Comme ça, de manière générale, hein.
Oui, moi, je pense que c'est, ça dépend des étrangers. Les Mexicains, par définition, aiment beaucoup les étrangers. Mais après, tous les étrangers, donc les Français, les Européens en général, même les Américains, sont hyper bien accueillis. En revanche, on a de plus en plus d'étrangers qui viennent de l'Amérique latine et qui ont beaucoup moins de moyens. Et là, tout d'un coup, ça devient plus compliqué. Donc, voilà. Donc, nous aussi, on a notre migration, on va dire, difficile, entre guillemets aussi, parce que c'est pas ça, mais qui a plus du mal à s'intégrer, à s'adapter. J'ai l'impression que c'est aussi lié aux revenus et aux sources.
Bonjour, donc je suis Anca Costan, j'ai 26 ans et je suis d'origine roumaine.
D'accord, donc vous travaillez aujourd'hui ici à l'INSEC, donc au cœur de Bordeaux. Mais pareil qu'avant, on va revenir un petit peu en arrière. Où est-ce que vous avez passé votre vie? Où est-ce que vous êtes née? Où est-ce que vous avez passé votre enfance?
Donc, je suis née dans le nord de la Roumanie, à côté de l'Hongrie. Et j'ai fait mes études à Bucarest en sciences économiques. Ma licence, je l'ai faite en français, donc je connaissais déjà en fait le français avant d'arriver en France. Et en fait, j'ai toujours été attirée par les échanges internationaux, par le voyage. Donc pour moi, c'était une évidence de continuer les études à l'étranger. Donc je me suis inscrite à un master en Espagne, le premier master, et après le deuxième à Bordeaux, à l'école de commerce d'EM, de Talence.
Alors, là, donc, plein de choses à découvrir. Déjà, en Roumanie, donc, c'était déjà une évidence pour vous de travailler en voyageant, en tout cas. Et le commerce, c'était une évidence. Vous avez fait des études de quoi?
Donc, administration des entreprises en Roumanie, administration des entreprises internationales en Espagne et finance de marché en France. Donc, oui, pour moi, c'était le commerce international, mélangé un petit peu à la finance. Et oui, c'était une évidence pour moi, le côté international. Mais après, vous savez, dans la vie, on planifie pas tout. Donc, je suis tombée amoureuse et je suis restée sur Bordeaux. Même si au début, Bordeaux, pour moi, c'était pas forcément une ville très internationale. Pour moi, c'était plutôt pas qui allait donner un cursus logique à mes études. Mais voilà, je suis quand même restée à Bordeaux et j'ai découvert que c'est quand même une ville internationale.
Alors, justement, donc vous disiez là, le français, c'était quelque chose qui vous intéressait en Roumanie. Déjà, vous appreniez le français. Pourquoi? Pourquoi la France? Pourquoi le français?
Parce qu'en fait, mon pays, c'est un pays francophone et francophile. On a beaucoup de français en Roumanie avec le travail. Et on a toujours eu des échanges diplomatiques entre les deux pays. Donc, voilà, on apprend l'allemand et le français à l'école. Maintenant, plus l'anglais. Mais c'est vrai que tout le monde presque parle français en Roumanie. Voilà.
D'accord. Et c'est quelle image, la France, quelle image elle véhicule là-bas?
De la culture. Un pays très culturel, très ancré dans les valeurs, dans un pays très social, en fait, voilà.
Et quand vous êtes arrivée à Bordeaux, c'est ce que vous vous êtes dit? Vous vous êtes dit, ah ben, je suis dans un pays très social, très culturel, ou vous aviez peut-être été déçue par la réalité?
Non, tout à fait. J'ai découvert que c'est un pays très solidaire. J'étais étonnée quand j'ai découvert le système et j'étais agréablement surprise en fait de ce fonctionnement parce qu'on a des pays où il y a certaines populations en fait qui sont un peu oubliées par l'État. Donc ici en France, on est quand même si c'est un peu difficile au niveau économique, mais c'est quand même un pays très solidaire.
Ouais. Voilà. Alors, si on refait dans l'ordre, donc les études en Roumanie, après vous partez donc en Espagne. En Espagne, comment ça s'est passé? C'est encore une autre culture qui vous faisait peut-être moins rêver que la France à l'origine. Comment est-ce que ça s'est passé?
Très bien. En Espagne, je me suis adaptée de suite. Je parlais déjà un petit peu espagnol, donc c'était assez facile. Et oui, c'est un peuple très chaleureux, accueillant. De suite, on se tutoie. Par rapport à la France, au début, on se vouvoie et après, on passe à une relation plus conviviale. Donc oui, en Espagne, c'est très bien passé. J'ai vécu à Madrid, donc c'est une ville assez vivante, assez grande et internationale en même temps.
Et donc, à Bordeaux, peut-être moins convivial dès le début, qu'est-ce qui vous a marqué, pareil, dans la culture française, quand vous êtes arrivé dans l'école, les premières choses qui vous ont marqué, qui peut-être, en regardant un collègue de classe, vous vous disiez, bah, c'est bizarre, ils font ça, les Français
En fait, par rapport à l'Espagne, mon pays, la France, je trouvais un pays assez carré. Peut-être pas comme l'Allemagne, mais pas loin. Donc, j'ai aimé ce côté pratique dans l'administration. Tout était carré, pointu. Donc, voilà, j'ai aimé ce côté-là en arrivant à la BEM. Voilà.
D'accord. Les relations avec les Français aussi, ça vous a semblé facile
Oui, parce qu'on est arrivé de l'Espagne. Déjà, on est un groupe d'étudiants étrangers. On s'est mélangé avec le français. Donc, de suite, on a fait une fête d'intégration. Donc, oui, c'est très bien passé. J'ai eu également la chance d'avoir des Français en tant que collègues qui ont déjà voyagé auparavant. Donc, eux, ils savaient qu'est-ce que c'était d'être un étranger en France ou ailleurs et nous ont de suite accueillis. Donc, moi, j'ai eu la chance, voilà.
Et alors, entre se dire, bon, bah là, je suis une étudiante dans un pays étranger, il y a quand même un pas au fait de se dire, bon, bah là, je m'installe vraiment dans cette ville et je vais vivre dans cette ville, là, ce que vous faites à Bordeaux. Donc, ça s'est fait pour un coup de foudre ici. Mais qu'est-ce que ça implique pour vous? Qu'est-ce que ça veut dire de vraiment faire votre vie ici en France, Bordeaux?
Oui, donc effectivement, je ne me sens pas encore tout à fait bordelaise, mais je sens en fait que j'ai plein de choses à faire ici à Bordeaux. Et j'ai l'impression de vivre un peu dans un conte de fées. C'est comme un petit peu que je crée ma vie. Et même si avant, je ne l'ai pas forcément senti, ah oui, ça va être à Bordeaux même. Mais là, je suis complètement consciente que c'est moi qui crée ma vie. Et en pleine conscience, oui, je décide de rester à Bordeaux. J'adore et voilà.
Est-ce que pour vous, après avoir la nationalité française, être citoyenne française, c'est quelque chose qui vous motive ou vous pensez que vous ne vous sentirez jamais française?
Au niveau de nationalité, j'ai pas encore fait la démarche et je pense pas que ce soit ça nécessaire parce que, en fait, quand on croise des Français dans la rue ou ailleurs, on me demande jamais et alors t'as la nationalité ou est-ce que. Voilà. Donc, c'est pas ma priorité et je pense que sentir français, c'est vraiment tous les jours dans les petites activités, quand on va déguster un vin, quand on va faire une fête, quand on va travailler avec les locaux. Donc, c'est dans ces petites choses, en fait, que pour moi, c'est être plus français qu'avec les papiers ou un statut légal. Enfin, je suis quand même légale, mais un statut de français. Vous savez, entre la Roumanie et la France, il y a quand même, on est assez proche comme pays, on est le pays latin. Donc, non, je trouve que c'est un pays normal, avec les hauts et les bas, avec les choses qui arrivent et... Voilà, donc je découvre tous les jours en fait des choses nouvelles, mais en même temps, c'est ça que j'aime. Aussi, cette découverte et cette curiosité d'aller au-delà des apparences et voir la profondeur en fait de chaque personne ou chaque valeur.
Et alors, vous parliez tout à l'heure du fait qu'il y a beaucoup de pays, enfin que la France est un pays solidaire, qu'il y a d'autres pays qui laissent à part certaines minorités ou des choses comme ça. En France, vous trouvez que tout le monde est vraiment inclus dans ce système social à la française?
Dans cette intégration, il y a deux côtés. Donc, d'une part, c'est l'État et de l'autre part, c'est les étrangers. Donc, oui, je pense que l'État donne l'opportunité aux gens de s'intégrer, de se sentir français. Et de l'autre côté, c'est les personnes en fait, qui sont responsables de leur intégration ou pas. C'est-à-dire que, comme dans toute chose dans la vie, il faut regarder la moitié pleine du verre. C'est-à-dire, si moi j'ai envie de m'intégrer avec les Français, il faut que je sorte, que je les appelle, que j'aille trouver un emploi. Voilà. Par contre, si je reste chez moi et que j'attends que les choses arrivent, je peux être déçue et je peux dire « Ah, ben c'est la France qui ne m'aide pas ou qui me laisse de côté ». Donc, je pense qu'on est co-responsable dans cette histoire d'intégration.
Alors, il y a des choses aussi politiquement qui avancent par rapport aux droits des étrangers, à l'égalité en fait entre étrangers et français. Par exemple, vous ressentiriez le besoin de voter en France, que ce soit à des élections locales, vous avez le droit, vous, par exemple, de voter pour le maire de la ville ou ce genre de choses, mais aussi de participer à des élections nationales. C'est quelque chose que vous ressentez le besoin de vous exprimer aussi comme ça en France ou pas forcément
Je pense qu'à partir d'un certain nombre d'années, par exemple à partir de 10 ans, je pense que les gens se sentent vraiment français. Et à partir du moment où on travaille, on a notre vie ici, on paye des impôts, je pense que oui, si on sent le besoin, je pense que oui, on aimerait bien dire « Ah oui, j'aimerais avoir tel président ou tel président ». Après, je pense que pour une période moindre de 10 ans, je pense que peut-être que ce n'est pas le cas, mais voilà, quand vraiment on est bien ancré dans le pays, je pense que oui, on aimerait bien s'exprimer.
Et alors, en Roumanie, pareil, vous allez peut-être pouvoir nous apporter un éclairage. Comment ça se passe au niveau de l'intégration des étrangers en Roumanie?
Il y a moins d'étrangers en Roumanie qu'en France. Mais je sais que nous, en tout cas, les Français, pour nous, c'est wow, des super personnes. Donc, on les intègre de suite. D'ailleurs, mes amis français qui sont là-bas, ils m'ont dit, c'est génial, on arrive à très bien s'intégrer. Donc, je pense que... Après, je ne vais pas généraliser non plus, mais je sais que on est quand même un pays latin qui est très accueillant. Donc, je n'ai pas très entendu avoir de soucis avec l'intégration. Et cette année, j'ai amené mon mari en Roumanie. Il m'a dit dans les rues, jamais senti un regard violent ou agressif. Ou je me suis sentie en pleine sécurité et très bien accueillie par tes amis, ta famille. Voilà.
Alors, il y a une question aussi de laquelle j'aimerais bien qu'on parle, c'est les Roms. Qui viennent, pas tous de Roumanie, mais certains viennent de Roumanie. Ici, on dit tout le temps, il y a des problèmes d'intégration avec les Roms, etc., etc. Vous, en tant que Roumaine, quel regard vous avez là-dessus?
Je pense peut-être que ça pourrait passer si on leur donne l'impression qu'on veuille les intégrer, qu'on leur donne des places dans les écoles. Mais après, je ne suis pas sûre, puisqu'on l'a déjà en Roumanie, ça n'a pas marché. Donc, c'est pas facile parce que c'est vraiment une culture à part. Ils ont leurs racines dans le fait d'être nomades, vraiment très ancrés. Donc pour moi, à part vraiment le dialogue et le faire de les convaincre de s'intégrer, pour moi, il n'y a que ça, le dialogue et vraiment communiquer et vraiment là-dessus. Mais les expulsés, non, ils vont revenir.
Et alors, en général, en dehors de seulement la communauté rome, mais l'ensemble des étrangers en France, vous trouvez que ça se passe comment? Quel climat il y a comment vous trouvez que ça se passe ici avec l'intégration des étrangers?
Je pense qu'au début, c'est un peu plus difficile parce que Bordeaux, bon, on dit que c'est quand même une ville agréable, mais au début, un peu fermée aux étrangers. Mais je pense qu'après un mois, deux mois, une fois qu'on connaît les gens, après, on est très bien reçu. Donc, je pense qu'il y a juste à passer le cap, le petit choc d'arriver. Et puis, c'est pas comme Paris, en fait, ou Madrid, ou notre capitale, où il y a beaucoup d'expats. Donc, les gens, ils sont habitués avec des étrangers. Ici, ça se fait, mais petit à petit. Il faut laisser un peu le temps aux Français de nous découvrir. Et...
Qu'est-ce que vous projetez, vous, là, dans les prochaines années? Ce serait de continuer ici, de partir ailleurs? Vous voulez faire votre vie en France ou pas forcément?
Dans les 5 ans qui arrivent, oui, j'aimerais bien continuer à travailler en France, avoir des enfants. Après, pourquoi pas partir dans le temps, peut-être dans les îles, à la retraite. Mais pour l'instant, non, j'envisage de rester en France.
Ben écoute, je m'appelle Isabelle, j'ai 51 ans et je me présenterai comme quelqu'un qui est d'origine assez diverse. Du côté de mon père, l'Égypte, Chypre, Rhodes, Du côté de ma mère, sans doute des Sarrasins. Je suis née à Paris et j'ai vécu mes 14 premières années à Bordeaux.
Après un bac S et un début d'études de chimie, tu tentes finalement les concours pour devenir instit et tu te retrouves à 20 ans devant ta première classe. Après 20 ans d'enseignement dans plusieurs classes, puis dans une, tu décides de rentrer à Bordeaux. Qu'est-ce qu'il s'y passe ?
Il se passe que je reviens à Bordeaux d'abord en famille. Je travaille sur Bègle pendant 3 ans. Et là, je sens, j'ai 20 ans, à l'époque j'avais 20 ans d'ancienneté, 25 ans, j'approchais des 25 ans. Et je dois dire que je m'essouffle. Et ça se manifeste peut-être par une espèce de dépréciation de moi. C'est-à-dire, est-ce que je suis toujours capable de... Et j'ai l'impression que m'essoufflant, je vais arriver à la situation que je ne veux surtout pas, c'est de m'ennuyer et d'ennuyer mes élèves. Et là, je panique un peu, parce que je me rends compte qu'il n'y a plus de sortie, il n'y a pas de possibilité. J'ai beau en parler autour de moi, j'ai beau essayer de voir s'il n'y a pas un bureau... de conseils, est-ce qu'il n'y a pas une porte de sortie, même brève, pour me ressourcer. J'ai l'impression d'avoir tout donné et que j'ai besoin de moi, de me nourrir, quoi. Et pas de réponse, il n'y a pas de réponse. Donc, à un moment donné, je tombe malade même. J'en peux plus et je m'arrête. Pendant un an, je m'arrête et je réfléchis sur ce que je vais pouvoir faire. Sachant qu'entre-temps et en déménageant par ici, dans le coin, je me trouve à côté d'une voisine qui ne sait pas lire et qui me fait lire son courrier, tout en me disant « j'aimerais savoir lire ». Et un jour, je la prends au mot et je lui dis « écoutez, c'est mon métier, si vous voulez, je vous apprends à lire ». Donc je commence avec elle, puis je me rends compte que ça concerne d'autres personnes autour de moi. Alors bon, cette voisine est algérienne, il y a d'autres ouvriers agricoles, on les appelle, qui sont des gens qui sont immigrés, qui travaillent depuis des années et qui ne savent pas lire et écrire. Et là, ça me scandalise le jour où je me rends compte que ma voisine qui vend des légumes se fait avoir régulièrement parce qu'elle ne sait pas compter non plus. Qu'elle fait confiance aux gens et que les gens en abusent. Donc je vais voir le maire de mon village et je lui propose d'ouvrir un cours d'alphabétisation dans le village. Alors au départ, on a 5 élèves et puis au bout d'un an, on en a 30. Voilà, donc je me forme à ça, c'est-à-dire que je vais au CLAP, parce que je ne sais pas, je sais ce que c'est que l'analphabétisme, mais les remèdes, je ne les connais pas. Et pendant 3 ans, je suis nommée par les autres présidente de cette association. C'est-à-dire que ce cours d'alphabétisation, je le mène en même temps que je mène ma profession. Mais quand je m'arrête, je demande un bilan de compétences. Et là, aidé par des gens spécialistes au rectorat, je découvre que, il y a une formation pour ça, pour les gens qui ne parlent pas français, que ça se passe à l'université. Donc je décide de reprendre mes études et de passer par l'université pour faire ça. Donc pendant un an, je me suis arrêtée. Mais parallèlement, j'ai fait une démarche auprès de l'inspection pour demander un poste, alors dit, mise à disposition. C'est un poste en vue d'une reconversion, en fait. C'est un poste qui est toujours dans l'enseignement, mais qui m'est accordé ou non par l'inspecteur d'académie sur lettre. Donc la réponse est positive. Et par contre, à moi de trouver l'endroit où je vais travailler. Donc là, je me propose mes services aux centres sociaux. Et c'est comme ça que je me retrouve enseignante, mise à disposition du centre social de ce nom, où Sylvie Carbia me propose de m'occuper des jeunes mineurs et tout juste majeurs isolés en demande d'asile.
Pour toi, c'est aussi la rencontre de tout à fait d'autres réalités de mineurs. Qu'est-ce que ça provoque ?
Déjà, je me rends compte des besoins énormes qu'il y a, parce que je dois dire que dans les directions où je travaillais, qui était l'expression râle et écrite, je néglige pas les mathématiques, mais c'était un peu mon dada. Là, il y a du boulot dans cette voie-là. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire. C'est complètement nécessaire pour ces jeunes-là, parce qu'on a beau dire, mais on fait très peu d'expressions orales à l'école. Si on entend parler un élève dans une classe 2 minutes dans la journée, je crois que c'est le maximum, à part quand on le fait réciter une poésie. Je crois que c'est vraiment la matière pauvre de l'enseignement, alors que c'est tellement nécessaire, quoi, de se rendre compte de l'acte de parole, quoi, et moi c'est ça mon dada, enfin c'est ça qui m'intéresse, c'est, je trouve qu'il y a beaucoup de choses à faire, et bon, donc là je continue ma recherche, enfin c'est une occasion pour moi de continuer ma recherche. Là j'ai quand même affaire à un public qui est en très très grande demande et en très très grand besoin, hein, et effectivement des gens qui ne parlent pas un mot de français. Et moi, je dois dire, je ne parle pas un mot des 47 langues qu'on reçoit au centre social. Hein. Je parle italien, ça m'a servi quelquefois, mais c'est tout, quoi. Je ne maîtrise pas très bien les autres langues. Donc, non, enfin, moi, ce qui m'a intéressé, c'est de mettre en pratique. Parallèlement, je suis donc à l'université et j'ai l'occasion là de mettre en pratique ce que j'apprends théoriquement à l'université. Et notamment l'interculturalité. Ça, c'est quelque chose qui est passionnant, quoi.
Comment est-ce que tu définirais ce mot ? Qu'est-ce que ça veut dire, l'interculturalité ?
Bah, c'est, pour moi, ça serait une image simple, ça serait un tissage. Voilà, les gens qu'on rencontre ont besoin de communiquer, on le voit bien, hein, au centre social, au centre social, on le voit plus particulièrement parce que ce sont des gens qui sont vraiment en grande demande. Et en situation parfois très, très limite. Donc, dès qu'on les aide un peu, ils sont tellement reconnaissants et tellement avides que c'est un plaisir, quoi. Enfin, c'est un plaisir d'être utile. On se sent utile, alors que parfois, on se sent un peu un pion dans l'éducation nationale. Un pion qui peut être baladé comme ça, n'importe comment. Et puis, j'apprends aussi à peut-être à devenir un peu plus diplomate. chose que je ne suis pas tellement.
Et donc l'apprentissage comme ça du français assez jeune, parce que ça va passer par le français écrit et oral, ça va durer pendant combien d'années ? Et est-ce que c'est avec les mêmes jeunes ? Ou est-ce qu'il y a des renouvellements réguliers ?
Alors, ça a duré 3 ans. Au début, c'était un chantier. Hein. C'est un chantier qu'on posait et ça a été compliqué de me faire connaître, c'est-à-dire de faire savoir aux uns et aux autres que j'étais là et que je pouvais... aider des jeunes sans solution de scolarisation. Une fois que ça a été connu, j'ai démarré peut-être avec une quinzaine d'élèves dans l'année, mais comme je faisais les cours du soir et les cours du mercredi, donc par rapport à ma profession antérieure, j'étais complètement décalée, mais par rapport à ce qui pouvait se passer au centre social, c'était génial parce que un centre social, comme tu l'as vu, dispose de pas mal de locaux. Et moi, je me suis beaucoup servi de la cuisine, qui est un lieu extraordinaire pour se parler et pour échanger sa culture, enfin faire connaître sa culture. Donc, pour répondre à tes questions tout à l'heure, pour moi, l'interculturalité, c'est justement de ne pas effacer la culture de l'autre parce qu'on lui apporte notre culture, mais de la prendre en compte et d'en faire un tissage, quoi. Enfin, de faire en sorte que la personne qui arrive déjà se sente reçue, se sente entendue et entrevoit la possibilité de vivre là. Parce qu'on a quand même beaucoup à faire à des gens qui sont là, pas parce qu'ils le souhaitent, mais par nécessité.
Le respect ou en tout cas l'intérêt que tu vas porter à des cultures différentes, tu l'expliques ou tu l'expliques pas, mais est-ce que tu le ressens du fait que toi-même justement tu viennes de plusieurs cultures, tu disais que tes parents avaient des origines multiples et donc toi aussi, ou est-ce que tu penses que c'est pas forcément dû à ça, c'est autre chose dans ton parcours ?
J'ai fort l'impression que c'est, enfin il y a un peu de ça, hein. C'est vrai que je me sens touchée, enfin je me sens apatride en fait. Si on me disait bon, bien sûr je suis française, hein, je suis née en France, mais je me sens imprégnée des cultures de mes parents, de mes grands-parents, même si je les ai pas connus. Ces personnes là qui sont en exil me touchent parce que j'ai l'impression que effectivement je m'y reconnais quelque part. Je sais un peu ce que c'est que l'exil. Je me suis exilée à Paris à un moment donné, donc maintenant je me réexile à Bordeaux où je me sens pas bordelaise. Hein, d'ailleurs, les gens que je côtoie ici à Bordeaux sont pas des bordelais, sont plus des étrangers que des bordelais. Et donc, même ici à Bordeaux, j'ai parfois le sentiment d'être moi-même une expatriée. Donc, ça me tient à cœur, oui, de montrer aux personnes qu'il y a des gens qui s'intéressent que non, on n'est pas tous à vouloir qu'ils s'en aillent. Enfin voilà. Et puis je suis touchée par la problématique de l'exil, de la nostalgie que j'ai pu entendre chez mes élèves, de leur jardin, de jasmin, je pense que c'est extrêmement difficile de venir d'ailleurs et d'arriver quelque part.
Alors, si on revient au centre social, donc ça va durer 3 ans. Qu'est-ce qui va te décider à partir ? C'est par obligation ?
Oui. Ma mise à disposition ne peut durer que 3 ans. Alors bon, j'ai demandé une inspection à ce moment-là. Je crois que j'ai été un peu oubliée par le rectorat pendant 3 ans. Et j'ai eu besoin d'un regard sur mon travail, même si je sentais que, oui, il y avait de plus en plus d'élèves. Oui, une chose que j'ai oublié de dire, c'est que petit à petit, j'ai eu aussi des plus âgés. C'est-à-dire que j'étais censée m'occuper des jeunes, mais que plusieurs personnes m'ont demandé à venir assister à mes cours parce qu'ils pouvaient plus venir le soir. Et donc, j'ai accepté. Et il y a eu un très beau mélange aussi de jeunes et de vieux. Et ça a beaucoup servi parfois parce que les jeunes qui pouvaient exprimer leur détresse étaient parfois consolé ou rassuré par les autres qui disaient oui mais t'inquiète pas moi aussi tu sais ça a fait ça quand on est arrivé mais tu vas voir, enfin il y avait un mouvement de solidarité que je ne pouvais pas forcément moi apporter parce que j'étais déjà très impliquée, enfin ça me touche beaucoup la détresse quoi. Donc il y a une distance je pense à garder quand même pour pas être complètement englouti dans la misère, quoi, dans la misère humaine. Enfin, ça, c'est tellement, c'est touchant, quoi. Enfin, c'est bouleversant même parfois.
Justement, comment on fait quand on est face à un public qui est en demande, mais presque au-delà juste de l'apprentissage de la langue, pour peut-être des démarches, pour comprendre les choses, le fonctionnement général d'un pays quand on le découvre comme ça. Comment on fait pour ne pas trop en faire ?
C'est une bonne question. Je ne sais pas. j'essaye de me situer à une juste distance. C'est parfois difficile. Ouais. C'est parfois difficile. Par exemple, l'hiver, quand je vois que les gamins ne viennent pas à l'école parce qu'ils n'ont pas de chaussures ou qu'ils ont froid ou qu'ils sont enrhumés, j'essaye de me débrouiller par les réseaux pour apporter des chaussures, pour apporter des couvertures. Oui, j'en fais un peu plus que ce que je devrais faire. Peut-être, mais je peux pas faire autrement. Enfin, ça serait inhumain.
Donc après le centre social, on te dit voilà, c'est fini, tu n'es plus à disposition du centre social. Et là, qu'est-ce qui se passe ?
Ben là, je valide ma formation, c'est-à-dire que je passe la certification FLS, français langue de scolarité, langue seconde, et je postule puisque je suis obligée de revenir dans les écoles. Sur un poste spécialisé. Et j'atterris à la Benauge.
Et quel est ce poste spécialisé ?
Alors, l'intitulé n'est pas très joli, c'est BDFLS, ça veut dire Brigade Départementale FLS, Français Langue de Scolarité. Ce qui veut dire en gros que je suis censée apprendre à lire et à écrire et à parler à des enfants non francophones qui arrive dans 3 écoles du quartier de la Benauge. Alors BD, Brigade Départementale, ça veut dire que je peux être envoyée dans tout le département.
Ces enfants, ils sont dans une classe précise avec d'autres jeunes français, ou est-ce qu'ils sont tout le temps dans des petites classes à côté pour une remise à niveau dans la langue ?
Non, alors ces enfants dans le quartier de la Benauge, c'est particulier parce qu'il y a le squat de l'avenue Thiers. Et donc, il y a une très, très grande majorité d'enfants bulgares. Beaucoup de ces enfants n'ont jamais été scolarisés. Donc, c'est très compliqué pour eux de venir à l'école. Enfin, c'est, je dirais même, un traumatisme. Les horaires, la cantine. Imagine un enfant qui n'a jamais été à l'école et qui débarque à 9 ans ou à 10 ans. Ça, c'est une chose. Bon, la loi veut que quand un enfant comme ça arrive, qui est non francophone, il doit être intégré dans sa classe d'âge. C'est-à-dire que s'il a 6 ans, il va en CP. S'il a 9 ans, il va en CM1 ou en CM2. Ce qui est catastrophique pour eux parce que bon, il faut un minimum. Bon, c'est pour ça qu'on est là. Mais donc l'année dernière, j'étais toute seule et toute seule face à 48 enfants inscrits dans 3 écoles. Avec une très très forte attente et des enfants et des enseignants, bien sûr, qui, eux, très démunis de se retrouver avec des enfants non francophones, non lecteurs, non scripteurs, voilà, au milieu d'autres. Parfois, il y en a 3-4. Et bon, c'est normal, ils parlent entre eux et ils parlent en bulgare. Donc la problématique de ce quartier, c'était de ne pas faire une classe clean, c'est-à-dire une classe fermée, avec que des Bulgares. Parce que ça faisait un peu ghetto. Hein, ça avait tout l'air d'un ghetto, et puis c'est très compliqué, même avec 5-6, de faire accepter de parler la langue. Hein, parfois, des enfants ne voient pas pourquoi ils parleraient une autre langue. On ne voit pas pourquoi ils écriraient, pourquoi ils liraient. Leurs parents ne lisent pas, n'écrivent pas. Donc, il y a quand même une approche un peu particulière à avoir, il me semble. Hein, et c'est ce que j'essaye de faire à travers des projets. C'est-à-dire que moi, je pars sur... Par exemple, l'année dernière, on a fait un projet cirque. On a fait un spectacle de cirque. Et ça faisait rentrer la danse, les chansons... Bon, bien entendu, l'exercice physique. Ça me permettrait, moi, de rentrer en lien avec ces enfants, d'avoir un fil conducteur qui les motive.
C'est ce genre de projet qu'on apprend, par exemple, en FLS. Quand on étudie ça à l'université, il y a cette préparation-là à être toujours dans la recherche un peu de choses alternatives, d'autres biais pour en venir à apprendre une langue.
Oui, on insiste beaucoup. Enfin, c'est vrai qu'on apprend. D'ailleurs, c'est une unité d'enseignement qui a un très fort coefficient. C'est la pédagogie du projet. C'est-à-dire, on apprend en quelque sorte. Et bon, je crois qu'on devrait. Enfin, on fait tout ça hein, dans nos classes. C'est de pas seulement faire passer des enseignements, mais de faire comprendre que ces enseignements servent à quelque chose et sont utiles. Et ça, je sais que moi, enfant, ça m'est. J'ai souvent demandé, mais pourquoi on apprend ça? À quoi ça va me servir? Voilà. Donc, la pédagogie du projet sert à ça, enfin, est bâtie comme ça, c'est-à-dire qu'on part d'un besoin, on part de quelque chose qu'on sent, quelque chose qui va plaire, qu'on sent qui va plaire aux enfants, et on en profite pour y glisser des thématiques incontournables.
Et l'évolution, tu la sens, toi, sur ces enfants-là, sur est-ce que petit à petit ils adhèrent plus à l'école en tant que déjà structure physique et aussi avec tout ce qui s'y transmet?
Alors bon, ça dépend des écoles, hein, mais en gros, oui. En gros, les enfants que j'ai pu suivre l'année dernière, je ne suis pas seule, hein, je rends l'honneur et le chapeau aux enseignants qui les ont toute la journée. Qui sont aussi pour beaucoup de choses, parce que l'un sans l'autre, on ne peut rien faire. Hein. Mais ça a été un peu compliqué dans certaines écoles l'année dernière de faire comprendre aux enseignants qu'on travaillait ensemble et que je ne pouvais pas prendre les enfants tout le temps, tous les jours. Voilà, par exemple, un enseignant qui me disait « Mais moi, je ne sais pas comment faire avec lui, et je le mets au fond de la classe et je lui fais faire des dessins. » J'essaye de lui dire, mais pourquoi tu le mets au fond de la classe? Mets-le au milieu, mets-le à côté des autres. Déjà, le bain de langage, l'immersion totale dans la langue, c'est ça qu'il leur faut. Parce que si on les regroupe tout le temps, ils vont, bon, et c'est normal, parler entre eux et pas avoir la nécessité de communiquer avec les autres. Et là, effectivement, on crée le ghetto et on crée la différence.
Beaucoup de professeurs sont absolument pas préparés justement à ces problématiques qui ont à voir avec l'interculturalité.
Oui, effectivement, oui. Et puis bon, je ne leur jette pas la pierre. Hein. Il y a très peu de formations. Bon, il y en a. Mais en gros, ce qu'on leur demande aux professeurs, c'est de faire de la pédagogie différenciée, c'est-à-dire de repérer dans leur classe des petits groupes et de faire un travail spécifique à chacun. Or, il me paraît quand même difficile pour beaucoup, quand on a un CM par exemple, de préparer un programme de CP et de faire les deux en parallèle quand on a déjà dans son CM plusieurs niveaux de compétences. C'est vrai que c'est difficile, c'est vrai. Donc moi je suis là pour déjà pour prendre les enfants en petits groupes sur des thématiques particulières, en accord avec les enseignants, et on réfléchit ensemble à la stratégie qu'on va déployer, enfin, si on peut dire ça comme ça, disons le fil conducteur et la progression qu'on va essayer de mettre en place pour que l'enfant ne se sente pas isolé dans la classe et perdu et ne rien apprendre, quoi. Enfin, bon, voilà, donc je pense que les enfants qui se sont retrouvés dans cette situation-là, on le voit très bien, ne viennent plus à l'école, ne viennent le matin, pas l'après-midi, sont souvent malades, enfin bon, trouvent toujours une raison de ne pas venir, parce que, bon, forcément, dessiner toute la journée, ça a des limites.
Est-ce que le fait d'être avec eux, ça t'a aussi peut-être, tu le disais par la notion de projet, etc., ça t'a fait ouvrir peut-être la notion de pédagogie à d'autres choses que ce qu'on apprend en général aux professeurs quand ils vont passer les concours pour devenir prof? Est-ce que ça ouvre sur une autre type de pédagogie, une autre recherche par rapport à toi-même, à ta personne?
Je vais prendre un exemple. Bon, il se trouve que je pratique la danse et le rythme. Et bon, avec ces enfants, ça a été une ficelle pour moi. Parce que ce sont... Bon, je t'apprendrai rien si je te dis que les Bulgares sont très musiciens. Et je suis rentrée par ce biais-là. J'ai fait une percée. Je me souviens d'un enfant qui me disait « Mais moi, je ne veux pas apprendre à lire. De toute façon, ça va me servir à rien. » Et bon, un peu plus tard, je lui ai demandé de m'apprendre une chanson de son pays que j'ai filmée. Donc, je l'ai filmée en train de chanter cette chanson. Et j'ai réécouté avec lui la chanson et je l'ai transcrite. En phonétique, hein. Je ne sais pas écrire le bulgare, donc et je l'ai rechanté avec lui. Et là, je l'ai vu étonné. Mais comment tu fais pour chanter la chanson avec moi puisque tu la connais pas? Je dis, tu vois, j'ai écrit. Et là, ça a commencé à l'intéresser. Ça sert à ça d'écrire, de garder une trace, et puis de pas oublier. Voilà, c'est un peu ma manière de faire. Donc, je sais pas si ça répond à ta question, mais oui, ça ouvre. À ma curiosité naturelle, qu'est-ce qui se passe en Bulgarie? Pourquoi ils sont traités de cette façon? Pourquoi c'est insoluble? C'est vrai que les enfants, ils trinquent de cette situation sérieusement, quoi. Et je déplorerais qu'on les envoie en SECPA ou dans des filières raccourcies alors qu'ils ont des talents comme les autres. Sauf que bon, ils ont un retard effectivement de scolarité, mais bien d'autres possibilités, quoi, que je pense qu'il faudrait prendre en compte.
Donc toi, tu travailles avec d'autres professeurs autour de ces enfants, et est-ce que il y a d'autres acteurs en général dans une ville qui va travailler avec des enfants bulgares qui vivent dans un squat? Est-ce que tu travailles aussi avec l'ensemble de ces acteurs qui vont être des centres sociaux, qui vont être des médiateurs?
Alors bon, déjà, j'ai deux autres collègues, Sophie Rama et Frédéric Andrianirina, qui travaillent avec moi donc sur ce secteur, et un autre collègue, Nicolas Cartron, qui lui travaille à la Benoge aussi, mais qui lui est médiateur auprès des parents. C'est-à-dire qu'en fait, il fait le lien entre les parents, la famille et l'école. Il accompagne les parents à la mairie pour les inscriptions, pour les démarches administratives. Et en plus, il apprend le bulgare, donc il nous est très, très, je n'ose pas dire utile, mais il travaille avec nous et très important dans ce travail. Il y a aussi les deux médiateurs mairie, David Dumont et Jérôme Lobao, sur lesquels on est en lien pour des problèmes d'absence, pour des problèmes de santé. Il m'est arrivé de rencontrer Médecins du Monde aussi pour voir avec eux ce qui se passait dans une famille. On travaille avec la MDSI, avec les assistants sociaux. Bon, évidemment, l'inspection et le CASNAV.
À t'entendre, on ne se dit pas du tout que c'est le métier d'un enseignant lambda, quelque part, de travailler avec des structures comme ça, très parallèles, etc. Tu te vois travailler là, dans l'avenir, dans une classe de primaire, comme tu le faisais avant ?
Pour l'instant, écoute, je suis tellement investie dans ce que je fais que, bon, c'est pas du tout, je ne serai pas dans une classe. Et j'avoue que... Est-ce que c'est... Oui, j'ai affaire à un public parfois itinérant. Est-ce que c'est contagieux ? Je ne sais pas.
Merci à tous et à toutes d'avoir été à l'écoute sur Odo Radio 91.3 pour cette émission Portrait migratoire, une émission réalisée dans le cadre de notre projet Les Ondes du Vivre Ensemble, un projet cofinancé par le Fonds européen d'intégration. À la semaine prochaine.